Bonjour à tous et bienvenue sur Estasia.fr pour notre 38e podcast en grande partie consacré à l'étrange festival qui s'est tenu au Forum des Images du 7 au 18 septembre dernier, mais aussi à l'actu de la rentrée et même au cinéma français grâce à Tran Anung et à son éternité, n'est-ce pas Kefren?
Oui.
Mais on commence avec un petit tour de table pour présenter nos événements de cette rentrée 2016, à commencer par notre invité Olivier Rossignol de Culture au Point.
Bonsoir.
Bonsoir. Alors est-ce que tu peux nous parler un peu de ton site pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore?
Alors c'est un site qui a à peu près, je crois, 6 ans. Alors c'est pas uniquement un site de cinéma, moi je suis le rédacteur-chef cinéma, mais c'est pas uniquement un site de cinéma, il y a une partie littérature, une partie musique, une partie exposition. Donc moi je suis le rédacteur-chef cinéma et on essaye un peu de virer tous les clivages habituels, c'est-à-dire du cinéma mineur, cinéma majeur, cinéma du patrimoine, celui qu'on a le droit de voir, celui que... Les plaisirs coupables. C'est-à-dire on va autant parler de Jess Franco, de Bergman. Et donc voilà, le mot d'ordre, c'est un peu la liberté de chacun. On fonctionne un peu par coup de foudre, non pas par liste d'articles chaque mois, mais plus par coup de foudre. Et on continue, on tient le coup, on aime ça.
Et alors du coup, quel serait votre événement de cette rentrée 2016?
Alors notre événement de rentrée 2016 pour le site, on travaille, alors c'est un peu une coïncidence, ça fait un moment qu'on travaillait sur un unloader et sur un dossier, et donc on est en train de poursuivre, il y a déjà un premier article qui est paru sur Ennenlotter et le corps, et on va poursuivre avec Ennenlotter et la ville, il va y avoir un troisième article et vraisemblablement quelques interviews. Voilà, donc on continue pour montrer que Ennenlotter n'est pas juste, comme dans le programme était indiqué, le maître du gore, que c'est bien plus que ça.
Bon, bah super, bon, on va suivre ça. En tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir.
Merci.
Pour cet enregistrement Istasia. Bonjour Lila.
Bonjour.
C'est aussi ton premier podcast,
tout à fait.
Je pense. Donc, tu es depuis quelques semaines sur Istasia. On a pu te lire sur Ime Anolé.
C'est ça.
Et quel est ton événement de cette rentrée?
Je me douterais qu'elle aurait un piège de ce genre. Honnêtement, je ne saurais pas quoi trop dire, puisque pour moi, le grand événement de la rentrée, mais aussi de l'année, c'est l'étrange festival. Et... c'est un petit peu difficile, au-delà de ça, de voir quelque chose pour moi qui suis totalement dévouée à cet événement. Donc, mais on en reparlera un peu plus tard.
Et... oui, on va développer,
voilà.
On va développer tout ça. Bonjour Kefren. Comment ça va?
Ça va, oui.
Alors, est-ce que, outre l'étrange, il y a un événement, cette rentrée cinématographique?
On est obligé de parler que de cinéma.
Tu peux parler de ce que tu veux, c'est une carte blanche.
Ben, déjà, il y a Aquarius, qui est le nouveau film de Kleber Mendoza Filho, qui est un film génial sur le Brésil contemporain, sur le Brésil en général. Et il y a l'exposition sur Provoque à Lebal. Qui a Pasquichi, et qu'on peut voir jusqu'en décembre, je crois, et c'est sur les photographes japonais entre les années 60 et jusqu'au milieu des années 70, et il y a du Araki, du Murayama, etc.
Ce mouvement contestataire, donc, qui ont été documentés par cette revue et par ces photographes donc, dans les années 60. Bonjour Justin.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va.
Alors, qu'est-ce qui t'a marqué sur cette rentrée 2016?
Il y a un gros événement là qui a démarré, c'est l'exposition Tintin, donc qui est au Grand Palais, donc bon, j'ai pas encore eu la chance d'y assister, mais donc ça a l'air quand même de bien explorer l'univers d'Hergé, des BD de l'époque, donc ça a l'air de valoir le coup.
Très bien. Bonjour Martin.
Bonjour.
Ça va?
Oh bah, impeccable.
Alors, une bonne rentrée?
Bah, ça commence plutôt bien.
Et quel est ton événement?
C'est
la tradition.
Non, mais voilà. Et mon événement, justement, c'est il est à venir, puisqu'il est très proche. C'est le Festival du film coréen à Paris. Donc voilà, la 11e édition. Il s'annonce absolument dingue et on en parlera tout à l'heure.
Oui, tu teases un teaser du FFCP, donc en fin d'émission.
Exactement.
Du coup. Bonjour Marquin.
Bonsoir.
Alors, est-ce que tu as passé une bonne rentrée 2016?
Écoutez, oui, mais moi, comme Martin, j'attends le festival coréen donc qui s'annonce alléchant. Mais si, à part ça, non.
À part ça, t'as pas passé une bonne rentrée ou tu n'attends rien d'autre?
Non.
Salut Nicolas.
Bonjour. Moi, c'est pareil. Hein, le gros événement passé, c'était l'étrange. Le gros événement à venir, c'est le festival coréen et le PIF, même si je pense que je n'aurai pas trop le temps de voir beaucoup de séances. Sinon, j'ai pu voir un peu la. Enfin, j'ai vu un film de la rétro de l'Acide, que j'ai. Des films qu'on a en général pas vraiment le temps de voir à Cannes, puisque c'est un peu calé au milieu des autres festivités, quoi. Et j'ai pu voir Le Parc, qui est un film qui sortira début 2017, quoi, qui est vraiment un film français assez original. Et voilà, j'en dis pas plus, mais quand il sortira, allez le voir, Le Parc. Je me rappelle plus du nom réalisateur, son premier film. C'est un très bon film.
Bonjour Elias.
Bonjour. Alors mon événement, c'est un tout petit truc, c'est un tout petit film. Enfin non, pas un petit film, mais comparé à ce qu'il y a fait après, c'est aussi un quand même moins majeur que le reste. C'est Bleeder de Nicolas Winding Refn, qui est mon réal préféré avec Sous Notion, qui ressort sur les écrans d'ici quelques semaines. Et je trouve que c'est bien qu'il ressorte un peu de temps après The Neon Demon, qui a assez divisé le public et les critiques, parce que ça rappelle qu'à l'origine, Nicolas Winding Refn, c'est pas que des néons et des gens qui se battent et des mouvements très stylisés. À la base, c'était aussi des films très bruts qui se passaient dans les bas-fonds de Copenhague, c'est les pushers. Et c'est ce Bleeder qui a un peu la face plus tendre des pushers, plus tendre mais aussi plus dramatique, un peu plus lourde. C'est pas un film, c'est pas un excellent film. Moi je trouve que c'est pas mon préféré de Winding Refn, c'est peut-être un de ceux que j'aime le moins. Mais je trouve que ressortir ce film qui montre une autre face de cet auteur que j'apprécie beaucoup et qui je pense est assez important actuellement, c'est une très bonne chose. Donc allez voir Bleeder, vous aimez ou non.
C'est le dernier qui reste inédit d'ailleurs.
Oui, depuis que les pushers sont tous trois sortis en box.
Très bien. Et quant à moi, mon événement de cette rentrée, c'est le Lion d'Or à Venise pour La Femme qui est partie de Lav Diaz. On a entendu des échos assez négatifs pendant tout le festival de Venise cette année. Et fort heureusement, moi j'ai lu que ce soit dans les cahiers du cinéma, dans les Inrocks, apparemment c'est une déception critique, en tout cas pour la critique.
Peut-être que j'ai entendu que les bons retours, c'est peut-être pour ça. Ah. Mais, par exemple, le Stone a quand même pas mal plu. Snowden, il a pas mal plu.
La Lande
qui a été un succès incroyable. Le Lav Diaz, il y a même d'autres films qui ont eu pas mal de succès. Même je sais pas s'il y avait le Eastwood.
Il y avait le Mel Gibson.
Non, le Mel Gibson, c'est partagé, mais. Non, ça va, il y a quand même des bons.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le choix du, du palmarès est en tout cas excellent, puisque Lav Diaz, c'est un des plus grands réalisateurs internationaux actuellement. C'est un réalisateur philippin. On a comme ça une chance que La Femme qui est partie puisse sortir en France, et je crois qu'il a une date de sortie en janvier, c'est le 25 janvier prochain, et du coup je pense que ça figure déjà parmi les meilleurs films de l'année 2017 très certainement. Voilà, ça raconte l'histoire d'une femme qui est accusée d'un crime apparemment qu'elle n'a pas commis au mi-temps des années 90 aux Philippines, sur un fond d'histoire d'enlèvement. Alors comme ça, ça a l'air très dramatique, mais ça va pas être du Man on Fire quand on connaît un peu la filmographie de Lav Diaz. C'est beaucoup plus intimiste, même s'il y a quelque chose de très romanesque dans son cinéma.
Il faut peut-être préciser aussi la durée du film.
Oui, mais ça, on en parle tout le temps, alors c'est vrai que c'est un film de 4 heures. On attend toujours quand on parle de Lav Diaz, qui est un réalisateur qui fait des films de 8 heures, de 12 heures, etc. Donc, généralement, son dernier film de 4 heures, c'était Norte, la fin de l'histoire, qui passait très très bien en une seule fois, qui était sorti en salle.
C'était juste pour mettre l'accent qu'il a fait plus long, et donc là, c'était plus accessible.
Et même pas 4 heures, je crois.
Enfin, oui, même un peu moins.
Ah, même pas 4 heures.
Même pas 4 heures, quoi. À part de la bière. Donc on en reparlera, je pense que ce sera un de nos événements de janvier.
Juste, puisqu'on parle des Philippines, on peut aussi re-signaler qu'on est en train de redécouvrir en ce moment l'œuvre de Lino Broca, qui a déjà une science qui est ressortie, et que là, il y a Mani qui va ressortir dans quelques mois, même un mois, je crois. Voilà, ça c'est très important.
Bon, bah c'est bien, on est revenu comme ça sur le cinéma asiatique, alors qu'on était parti du côté de Tintin et d'autres aventures belgiques ou internationales. Du coup, on va se concentrer sur ce qui a fait l'actualité du cinéma asiatique en France, avec une news, une bande-annonce et quelques sorties DVD, avant de parler de l'étrange festival dans une deuxième partie. Et la première news qui a éveillé notre curiosité, on va dire, c'est l'adaptation du manga culte Jojo's Bizarre Adventure, ce qui déjà peut éveiller notre curiosité pour savoir comment ça peut être adapté, mais en plus, c'est Takashi Miike qui est à la réalisation, Kefren.
Oui, alors, après son Terraformers douteux...
On en revient aussi, c'est une preview de puisque Terraformers était à l'étrange festival.
Oui, on en reparlera plus tard. Miike va dans une autre adaptation casse-gueule, et cette fois d'un manga culte qui est Jojo Bizarre Adventure, qui connaît plutôt un gros succès au Japon et qui fait partie des œuvres cultes au Japon depuis les années 90. Et là, justement, c'est une œuvre qui graphiquement, visuellement, est très 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 marquée. Et on se demande justement comment Mickey pourra relever le défi de cette adaptation alors qu'il n'arrive même pas à insuffler une vie quoi, à des œuvres plus mineures comme Terraform Mars, justement. Et je pense qu'Elias peut venir en parler avec moi des jeux.
Elias, je vais pas dire que je suis un fan du manga parce que j'avoue que j'ai découvert avec l'anime. Ouais. Et pour moi, Judo, c'est vraiment un des shonen les plus importants de l'histoire du shonen au Japon. C'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus remarquable que toutes les grandes séries Bleach, Naruto, non, Dragon, ouais, ouais. Pour moi, c'est aussi gros que Dragon Ball, aussi important dans l'histoire du manga que Dragon Ball. Et je trouve que faire une adaptation de Jojo en manga, qui est pour moi un manga que je pourrais pas dire inadaptable, parce que c'est possible avec beaucoup de budget, un excellent réal, etc. Mais de le filer à Takashi Miike qui vient de torcher Terraform Mars.
Il avait beaucoup de budget et ce fut un excellent réal. Hein.
Oui, mais je veux dire, honnêtement, vous m'auriez même dit que c'était son notion qui faisait Terraform Mars, qui faisait Jojo, j'aurais pas été rassuré. Parce que Jojo, c'est une œuvre qui est marquée visuellement, qui est marquée dans le dessin, avant tout, qui est marqué par un fantastique de chaque instant qui est vraiment très très dur à mettre en place, parce que je pense qu'il faut une scène à effets spéciaux toutes les 5 minutes, et quand je connais le talent qu'ont les Japonais à faire de la CGI, je suis pas rassuré du tout. Enfin, ceux qui connaissent Jojo, enfin, les stands sont l'espèce d'esprit qui sont derrière les personnages, qui se battent pour eux, c'est que de la CGI, je pense qu'il n'y a pas de moyen de faire avec des vrais acteurs, et ça va être, à moins d'une surprise, pour moi, je pense que ça va être visuellement affreux. En voyant Terraform Mars et les combats de Terraform Mars, les combats de Jojo qui sont à la fois très fantaisistes, mais avec un sérieux, une stratégie qui fait les combats. En fait, Jojo, l'intérêt des combats, c'est que les héros partent toujours perdants, et c'est par des stratégies très compliquées, très tordues, très Deus Ex Machina, qu'ils arrivent à chaque fois à se défaire de leur adversaire qui est toujours plus fort, quasiment toujours plus fort.
Un peu comme Takashi Miike quand il fait sa adaptation, il part perdant, on va voir peut-être qu'il a...
Et faire des combats aussi absurdes, en fait, une série aussi absurde qui est toujours à la limite du ridicule, mais qui parvient à surfer sur cette limite du ridicule pour faire quelque chose d'assez épique et d'assez drôle et d'assez bien. Filer un film à Takashi Miike qui est pas au meilleur de sa forme, qui vient de faire un film très mauvais, d'un manga très mauvais, je veux pas voir ce qu'il va faire à ce manga qui est un des mangas préférés au monde, et ça va me faire beaucoup beaucoup de mal, je pense, pour le film.
Alors, histoire de nous rassurer, entre temps, Takashi Miike réalise L'habitant de l'infini, qui est un autre chef d'œuvre de l'histoire du manga, donc on va voir aussi ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être rassurant s'il arrive à faire une adaptation correcte de L'habitant de l'infini sur Jojo.
Et qui tu voyais pour l'adapter?
Personne. Studio David, ceux qui font l'anime, ils font très bien l'anime, c'est génial. Vu la qualité de l'anime, il n'y a pas de quoi faire un film live.
Enfin, L'habitant de l'infini, pour revenir dessus, c'est quand même un manga vraiment passionnant, qui va très loin aussi des fois dans la torture, la violence et tout, qui peut être assez cru. Donc là, ça correspond à Miike, et puis surtout, Miike... Oui, c'est peut faire des films d'époque assez réussis. Enfin, ouais. Moi, je reste toujours sur le 13 Assassin. Alors, ça fait déjà quoi, 6-7 ans qu'il a réalisé. Mais en tout cas, on sait qu'il peut être à l'aise dans ce type de film.
Bon. Après, il y avait une adaptation animée aussi de L'habitant de l'infini qui était assez ratée. Ouais. Donc voilà, il y a quand même un enjeu scénaristique qui est assez important. Mmh. Déjà, à la base, au niveau de l'adaptation, voir si ça respecte le manga, quelle est la structure possible du film.
Pour revenir à Jojo, moi, ça fait beaucoup, enfin, pas mal de mes collègues me conseillent de le voir, et ça fait des mois que je me dis faut que je m'y mette, mais il y a beaucoup d'épisodes, je crois.
Non, mais justement, enfin, ce beaucoup que je de faire venir, c'est que le fait que le film adapte le quatrième arc, qui est certes pour l'instant, je pense, un des meilleurs arcs et un des plus appréciés des fans, donc c'est un choix pris, donc un commercial qui est pris, parce que c'est vraiment un des arcs préférés, pas les plus populaires, mais un des préférés en qualité, c'est le quatrième arc, il y a trois arcs avant. Il y a des personnages, les deux premiers arcs qui reviennent dans le quatrième, c'est très... ce qui a intérêt de vraiment justifier, bien justifier, parce qu'il y a vraiment beaucoup... l'histoire est entièrement liée à ce qui se passe avant, et on coupe ce qu'il y a avant a priori, vu que je pense pas qu'il puisse
résumer
24 ans
en quart d'heure.
Mais non, parce que justement, Jojo, c'est une histoire de filiation, et justement, on suit une famille comme ça depuis le drame originel, et ils se battent comme ça. Et ça, on se demande comment... Miike va adapter en aspect. Bon, il y aura
apparemment plusieurs.
Mais là, on se demande comment il peut
démarrer. Il y aura plusieurs films, donc tu veux dire.
Oui, oui, il y en aura. Apparemment, vu que c'est le titre du film, c'est chapitre 1. Donc,
déjà, tu les adaptations de manga qui de 3, 1, 2, 1 ou 2 tomes, c'est une galère. Alors, les adaptations de manga, je sais pas combien il y a.
Jojo, à l'arc 4, il y a déjà bon 80 tomes.
Ouais, voilà.
Mais là, en plus, la filiation au centre de l'histoire dans Jojo. Donc, s'ils n'arrivent pas à bien contextualiser, tout est raté, en fait.
Alors on va rester dans les adaptations de manga culte, mais on passe cette fois-ci du Japon aux États-Unis, puisqu'on a eu il y a quelques semaines des nouvelles de l'adaptation de Rupert Sanders de Ghost in the Shell avec 5 mini teasers. Alors quand je dis mini, ça forme une minute au total mis bout à bout, mais qui nous donne un peu plus d'informations sur l'imaginaire et l'imagerie du film. Justin.
Oui, donc finalement il n'y a ni de quoi s'enflammer, ni de quoi avoir peur que ça soit raté. En fait, il y a quand même pas mal de. Il y a pas mal de belles images, bon, parce que Rupert Sanders, une des qualités de son film, son premier film, Blanche-Neige et le Chasseur, c'était qu'il était quand même capable de claquer de belles images. Bon, le film n'était pas réussi, mais il était capable de quand même faire des plans, des compositions de plans assez intéressantes. Et là, c'est quand même assez respectueux dans l'ensemble. Bon, l'inspiration, ça a plus l'air d'être le film et puis les séries plus que le manga, quoique il y a une petite allusion lesbienne, on peut dire. Il va peut-être faire un gros mix de toute la mythologie, c'est à voir. Mais en tout cas, bon, c'est intriguant, ça suscite la curiosité. Et puis, comme il y avait pas mal de fans, qu'il y avait des rumeurs qui circulaient avant, comme quoi ils avaient utilisé un logiciel pour lui brider les yeux, pour brider les yeux de Scarlett Johansson, il y avait plein un peu de n'importe quoi qui a circulé avant. Bon, là, du coup, quoi, avec les images qui bougent, bon, c'est quand même plutôt rassurant, quoi.
Olivier, qu'est-ce que ça t'évoque, ces premières images de Ghost in the Shell?
Pas grand-chose. A priori, le projet, dès le départ, m'enchante pas tellement. Et puis, le film précédent du Réal m'enchante pas tellement non plus. Donc, je suis quand même...
C'est Blanche-Neige et le Chasseur.
Ouais, bleu,
avec un film.
Avec un bon scénario, parce qu'honnêtement, Blanche-Neige et le Chasseur, il y avait visuellement, c'était pas inintéressant. Ah,
les images étaient jolies, mais c'était mis en scène avec les pieds, quoi. La bataille finale, c'est une catastrophe.
Je m'interroge.
La suite,
Oui, non, mais la suite.
On voit qu'il y avait un peu de talent quand même dans celui d'avant. Quoi.
Non, mais je m'interroge juste vraiment sur l'utilité d'un tel film, quoi, c'est tout.
Moi, ça me dérange.
Un nom, une franchise connue, voilà. On connaît, c'est flagrant déjà depuis quelques années, plus encore. Hollywood est vraiment dans une crise, mais vraiment dans une vraie crise de. Artistique, ils sont incapables de créer quelque chose de neuf. Hein. On voit que des adaptations, soit de romans, soit de mangas. Enfin, pas de mangas, ils commencent.
Ça a toujours existé.
Voilà, ça a toujours existé, mais maintenant ils ne font que ça.
Des remakes de remakes.
Ça a toujours existé.
Oui, mais je ne dis pas ça, mais aujourd'hui.
Même les remakes, ça râle maintenant, mais les remakes de 5 ans après, même.
Ouais, mais là, c'est des remakes de reboot, de machin et trucs, mais il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un film qui a un script original quasiment.
Si, mais ils sont dans la blacklist de Hollywood.
Ouais, mais on les voit plus. Avant, il y avait au moins, ils alternaient. Et maintenant, c'est vraiment c'est de la franchise pure jus.
Le problème, c'est que quand on sort quelque chose d'original, ça se plante. C'est la faute du public.
Ah oui.
C'est la faute des gens.
C'est le public qui a envie de. Je pense à le succès des séries, il a envie d'être rassuré, d'être dans un univers qui connaît une continuité. C'est ce qui fait que. Parce que quand il y a quelque chose. Il y a quelques films. Un peu originaux, qui étaient bons, qui sont sortis ces dernières années, ils sont tous...
Non, mais justement, comment juger de la popularité d'une série comme Ghost in the Shell aux États-Unis? Je sais que ça a été traduit...
Shiro, c'est assez populaire, c'est un des mangas les plus populaires.
Là, on s'adresse à du très grand
public. Quand le film Shiro par Jeff Nichols...
Oui, mais ça a été distribué à l'époque chez Dark Horse. Enfin, ça fait partie vraiment des premières franchises qui ont été acquises par les Américains en termes de manga. Et Dark Horse a republié Ghost in the Shell, qui est extrêmement populaire au Japon. Vraiment.
Aussi d'un Shiro,
ils ont pompé à fond, de façon en termes graphiques et tout, pendant des années. Et donc, les Américains connaissent très très bien. Donc,
c'est, voilà, tu demandes à un Américain qui s'y connaît un peu en culture japonaise, etc., de dire ses mangas. Enfin, te dire les mangas tout le monde connaît, Akira, Ghibli, Akira, Ghost in the Shell, enfin voilà. Ghost in the Shell, je pense que tout le monde, mais une grande partie des gens un peu intéressés par ça connaissent.
C'est la culture pop, Ghost in the Shell.
Non, je disais juste.
Oui.
Après, on se posait la question de savoir si c'était utile de l'adapter. Alors bon, je pense qu'on pourrait s'en passer, mais après, je ne pense pas que ce soit simplement une copie ou un pas de remake, hein, comme on en fait souvent, parce que c'est quand même une œuvre qui est assez difficile à aborder, qui est assez complexe. Je pense que dans son adaptation américaine, bon, ça va être un pressentiment, mais je pense qu'elle va perdre beaucoup de richesse. Mais d'un autre côté, c'est peut-être, on aura peut-être un résultat qui sera un peu plus abordable par...
Déjà, je ne pense pas qu'on aura un Dragon Ball.
c'est une époque qui est révolue, on a dans les adaptations de franchises japonaises.
C'est un peu plus intéressant.
Dragon Ball Super, le film.
Mais du coup, ce qu'on peut voir de ces images, c'est juste une atmosphère. Enfin, c'est uniquement une atmosphère qui est donnée avec des éléments qui sont là pour rassurer les fans, que ce soit dans l'utilisation du logo de Ghost in the Shell, qui est proche de celui du manga, des acteurs japonais, dont Kitano, et ça commence par le plan iconique de Kitano, filmé en contre-plongée, qu'on retrouve dans énormément de ses films jusqu'à Outrage. Donc ce sont des choses qui sont là pour rassurer, je pense, le public et les fans sur les intentions esthétiques des films. Pour tout ce qui est du scénario et autres, ça on le verra
plus tard.
C'est une réponse, à mon avis, aux critiques qui s'est basée sur du vent jusqu'à présent.
On verra.
Au cinquième élément.
Il y a beaucoup moins de couleurs. Je ne sais pas si tu as vu récemment le cinquième élément.
Ça a l'air sobre au niveau de couleurs encore. Nous allons, après Ghost in the Shell, parler d'une autre adaptation de manga, théoriquement. Enfin, décidément, c'est vraiment la thématique, avec la sortie...
Comme il y a que ça au Japon, de toute
façon. au Japon et aux États-Unis en plus. Avec la sortie en DVD et Blu-ray chez Metropolitan, donc l'intégralité sera disponible le 12 octobre, de la trilogie Kenshin d'Otomo Keiichi. Martin, je crois que tu as plutôt apprécié cette adaptation.
Ah oui, j'ai beaucoup aimé. C'est déjà une trilogie que j'avais sortie depuis bien longtemps et je n'ai même pas attendu que Metropolitan le sorte. Je m'étais précipité sur les Blu-ray Warner.
Mais est-ce que c'est une coproduction Warner d'ailleurs?
Voilà, exactement.
Enfin, Warner Japon.
Donc voilà, qui a publié en Angleterre. Et c'était vraiment une très très bonne surprise. Et pourtant, on pouvait vraiment craindre le pire, parce que le shonen adapté au cinéma, ça donne vraiment un résultat absolument atroce. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à faire jouer les acteurs comme les personnes de jeu manga. Et ça, vraiment, il n'y a rien de pire. Alors, imaginez, comment dire, un Shambara avec des acteurs, avec des mèches de stars de la pop nippone. Se battre entre eux avec des kimonos hyper flashy, on pouvait vraiment dire que ça va être une grosse bouse, quoi. Et finalement, le réalisateur a réussi à trouver un espèce d'équilibre miraculeux entre l'hommage vraiment sincère aux grands films adaptés, donc les grandes franchises comme le Shinemori, Zatoichi ou plus tard les Baby Cards, et justement la culture shonen. Et ça passe vraiment comme une lettre à la poste, quoi. Alors que les combats sont à la fois classiques, mais ils utilisent certaines figures typiques justement du manga, et tout ça est bien mélangé. Les costumes, vraiment, c'est pas il y a qu'à voir Kenshin, hein, son kimono, c'est pas un kimono tout propre qui sort du pressing comme on aurait vu dans n'importe quel
après le manga voilà. est pas tout spécialement flashy,
non, oui, enfin voilà, mais le trait est très lisse et compagnie, et ils auraient tendance à vouloir faire quelque chose qui ressemble un peu trop au trait du manga original. C'est ce qu'ils font souvent. Hein.
L'animé a quand même pas mal de couleurs. Voilà, c'est un animé des années 90 qui est ancré dans... Enfin, 90, c'est plus
oui, voilà.
Qui est très ancré dans son époque. Hein. Il y a quand même donc, voilà, de l'orange, forcément, du rose. Dans
exactement.
Voilà, c'est des écueils que le film a évité, ouais. Avec une direction artistique beaucoup plus...
il faut vraiment féliciter le directeur artistique de ce film qui a vraiment fait un travail vraiment remarquable. Quoi.
Dans le 2 et le 3.
Oui, voilà. Parce que le premier, en fait, fonctionnait presque comme un épisode simple. Il était sorti un peu avant, il a eu du succès, donc du coup, ils ont les produits ont décidé de produire les deux suivants, en fait, avec un espèce de grand épisode en deux parties. Et voilà. Donc le deuxième, vraiment l'épisode central, est le plus intéressant, le plus dense scénaristiquement. Il y a aussi des scènes de combat qui sont vraiment dingues, il faut dire ce qu'il y a. Et voilà, ça se termine sur une espèce de climax, un peu. Voilà, le personnage se retrouve en mauvaise posture, c'est normal. Et il enchaîne sur un troisième. Qui est un peu plus lent à démarrer, mais qui développe de nouveaux personnages qui sont vraiment plutôt pas mal. et qui progresse vraiment lentement, mais sûrement vers un espèce de climax final qui est assez dingue, qui se passe sur un bateau en flammes, enfin voilà. Et, c'est très bien chorégraphié, très bien découpé. Ce que je reproche par contre au troisième épisode, c'est qu'ils ont tendance à rajouter quelques flashbacks pour « Souvenez-vous dans les épisodes précédents ». Et c'est vraiment inutile. Ils auraient pu limite faire une version, un seamless branching avec...
Tu les as vus à la suite. Hein. Tu les as vus à la suite.
Exactement. Donc voilà. Oui, mais bon, c'est l'intrigue est pas non plus hyper compliquée. Quoi. Voilà, donc c'est pas...
Est-ce que c'est fidèle au manga ?
Alors, je veux pas dire, j'ai pas lu le manga. J'ai feuilleté, j'ai vu un animé. Et en tout cas, ça passe vraiment très bien. Alors... il y a juste un personnage qui a fait tiquer, c'est dans le deuxième, je ne sais pas comment il s'appelle, mais bon voilà, il est blond peroxydé avec une espèce de grande coupe brosse.
Là, j'ai vu exactement le même problème, qui est, c'est un des rares personnages qui est trop proche du manga justement,
oui, voilà.
Où il n'y a pas une médiation assez importante vers le champ de marin. Et du coup là, la greffe ne prend pas, enfin, on sent vraiment la greffe. Oui. Shonen qui prend pas
oui,
complètement.
Là, on sent qu'ils veulent vraiment faire un plaisir un peu trop au public de fans et c'est un peu dommage. Mais sinon, tout le reste, vraiment, reste. C'est une œuvre de qualité et je conseille vivement de se procurer voilà, ce petit Shambara très très actuel mais finalement original.
Moi, je veux dire que les séquences de combat justement sont hyper bien et que. Keishu Tomo rajoute des apports un peu de ce qui s'est fait entre les grands chambaras de l'époque et les séries de l'époque et le cinéma d'action contemporain. Et par exemple, il y a des trucs avec des câbles et des choses comme ça qui sont hyper bien emmenés, super dynamiques et hyper bien chorégraphiés.
Notamment dans les déplacements de Kenshin, qui a tendance à vraiment glisser. C'est vraiment une toute très belle surprise.
Très bien, donc la trilogie Kenshin de Tomo Keishi est sortie, ou va sortir d'ailleurs le 12 octobre chez Metropolitan. Les deux premiers volumes sont déjà disponibles, mais vous pouvez attendre le coffret de la trilogie donc qui sort là, vu que c'est vraiment un premier film qui peut servir d'introduction, donc qui a été fait en 2012, et un gros film qui est découpé en deux chapitres, donc les trois sont à voir à peu près à la suite. On va revenir un petit peu en arrière, en restant au Japon, avec la ressortie toujours chez Metropolitan, ou la sortie d'ailleurs, je ne sais plus s'il était
inédit
ou pas, c'est une ressortie.
Donc
c'est une sortie en DVD et Blu-ray de XT de Sono Sion. Qui veut en parler, Olivier ?
Ouais, je veux bien, ouais. Alors a priori, moi j'avais vu XT il y a un moment. Et après avoir vu, je pense, Love Exposure, j'avais un peu tout fait dans le désordre. Et j'avais vu XT et j'avais été relativement déçu après les chocs, les autres chocs de solution. Et je l'ai revu récemment et en fait, je trouve ça vraiment, vraiment beaucoup plus intéressant que la première fois. Avec un côté presque, je pars de la chevelure de Sadako de Ring et j'en fais un film. C'est un peu, il y a un côté
donc presque... Ça, c'est le pitch. Hein. Ouais. C'est à peu près ça.
Et il y a un côté presque conceptuel où il décline en visuel jusqu'à l'excès total les cheveux, en fait l'idée de cheveux qui se développe comme un objet terrifiant et je trouve que c'est à l'arrivée c'est peut-être encore un film mineur de son notion mais ça reste extrêmement singulier et totalement fou.
Marc, tu es d'accord avec ce terme de film mineur ?
Je ne pense pas que ce soit un film mineur à proprement parler, mais ce qui est assez intéressant à voir, c'est que Sono Sion prend la G-Horror pour vraiment l'amener dans un côté qui est trivial, mais en même temps jusqu'au boutiste. En fait, il prend le style jusqu'au bout et il s'en amuse. Et je pense qu'en cela, le film est plutôt réussi. Et je pense qu'avec le temps, il vieillit de mieux en mieux.
Non, parce que c'est vrai qu'il va assez loin, en jouant avec les codes de la G-Horror, n'est-ce pas, Catherine?
Oui, justement. Mais la première fois justement, que j'ai vu le film, j'ai eu la même réaction qu'Olivier, j'avais pas trop aimé, mais parce que justement moi je suis un grand fan de Gérard et je voyais que c'était ouvertement il se moquait ouvertement des codes de la Gérard.
Tu l'as mal pris donc.
Oui, je l'ai mal pris, mais en revoyant le film j'ai vu qu'il allait beaucoup plus loin que ça, Et en fait, même, on pouvait avoir une autre lecture à l'aune de ce qu'est le personnage de Sonosian, c'est qu'il s'attaque encore à un autre grand mythe de la culture japonaise, c'est les cheveux des jeunes filles, justement. Et là, il transforme les cheveux, alors que, justement...
Est-ce que quelqu'un peut résumer le film, du coup, pour...
Le film, c'est...
Parce que on parle beaucoup de cheveux, mais si on n'a pas vu le film, ça peut paraître un petit peu opaque encore.
Alors, bah, le film, c'est que je crois qu'il y a, il y a une... Ils reçoivent un cadavre modifié avec des cheveux qui...
Dans un conteneur.
Oui, dans un conteneur, voilà, au tout début du film. Et après, le conteneur, enfin, la chose voyage avec un espèce de docteur psychopathe qui recherche la chose. Et en même temps, une étudiante en coiffure, justement, est confrontée à ça. Et de fil en aiguille, elle se retrouve à devoir affronter les cheveux, etc.
En fait, le cadavre a été vidé de ses organes, c'est assez important quand même. Et donc, la seule chose qu'on remarque dans ce cadavre, c'est que les cheveux commencent à pousser. Et donc, le type vole le cadavre et va commencer à vendre des morceaux de cheveux en s'apercevant que les cheveux continuent à repousser à différents endroits. Pour vendre justement des extensions de cheveux, et c'est là que commence la malédiction un peu de tous les côtés, où les extensions vont prendre vie de tous les côtés. Voilà, donc c'est là que commence.
Mais c'est vrai qu'on est encore dans une. Et même cette notion le fait jusqu'à Love Exposure, dans Love Exposure, et jusqu'à ces derniers films, qui est sur une narration extrêmement fragmentée, avec presque un style différent suivant le personnage qui est le personnage principal du film et suivant la scène. C'est-à-dire qu'il y a l'enquête policière d'un côté avec quelque chose de très. Cinéma de l'époque précédente, l'étudiante en coiffure qui est presque dans un univers de drama avec un chromo très coloré, le mec de la morgue qui va récupérer le cadavre qui lui est dans un univers de G-horror pur mais complètement décalé, et en même temps on a des scènes de flashback qui rappelle où on voit les souffrances de cette pauvre femme dont les cheveux continuent à pousser, qui est presque dans un univers de torture porn. Donc il y a tout cette espèce de télescopage de références, d'univers, et qui arrive malgré tout, maintenant surtout qu'on connaît mieux le cinéma de Sonosian à l'époque, à former un commentaire sur ce qu'était le cinéma japonais à ce moment-là. Et je pense que cette lecture un peu justement méta sur... Sonosian qui critique un peu et qui joue sur différents genres et registres est assez intéressante maintenant, en tout cas cette vision sur l'instantané du cinéma japonais à cette époque-là. Elias, peut-être quelque chose à
rajouter. Après ça, non, enfin, je pense que tu as un peu tout dit sur le film, enfin, je pense que tout a été dit sur le film, c'est qu'au final, voilà, enfin, c'est un bon Sonosian qui est bon pour les complotistes, c'est pas un film... c'est un film intéressant, c'est un film qui sait se régaler, c'est un film agréable à voir, qui marche bien. Mais moi, c'est pas un film. Je me suis fait la rétro-sonotion, je l'ai pas vu depuis, mais t'as fait la grande.
Tu l'as pas revu donc, du coup, ouais.
J'ai pas revu depuis ma grande rétro-sonotion, mais t'as fait en 2013, où t'as fait tous ces films mainstream, c'est-à-dire depuis Suicide Club jusqu'à l'époque, où dans tout Play In Hell. Mais moi, j'en ai un souvenir assez diffus, mais pas négatif. Enfin. Je pense que tout est dit sur le film que j'aurais pu dire, donc je vais pas dire de...
Par contre, il y a un remake à faire en français à Château Doux, là, avec un pitch comme ça.
À Château Doux sur les extensions.
Il y a du potentiel.
Olivier ?
Il y a un truc qui m'a fait rire, c'est le nom du salon de coiffure. C'est quand même le salon Gilles Doré. Et je sais pas ce que ça a éveillé en vous, mais ça, je trouve que c'est assez curieux. On aimerait bien demander à Sonosian pourquoi il a appelé son salon.
C'est le côté licence de Sonosian qui est lui-même fan de littérature française. Donc je pense que c'est à bon escient qu'il a fait ce petit clin d'œil.
J'en suis certain.
Mais aussi, il y a une partie du film qui est assez intéressante parce qu'elle est complètement inexpliquée ni inexplicable dans le film. C'est que il passe, je crois, 8-10 minutes à filmer l'ami de l'héroïne qui danse, oui. Avec son groupe de danse, et ça n'a aucun rapport dans le film.
Bah, ceci dit, il avait déjà filmé Ikari Misashimu, enfin je sais plus comment elle s'appelle, dans Love Exposure, sur une scène de danse qui finalement est une outtakes parce que c'était pas dans le film in fine, mais c'était une scène où elle dansait pendant peut-être 10 minutes.
Absolument, elle est avec ses amis, elle danse du hip-hop, oui, oui, semble. Il faut voir si c'est pas contractuel justement sur l'utilisation. À mon avis, ça m'étonnerait pas.
Elle est avec tout un groupe de gens.
Voilà, il y a un clip qui a été fait avec la chanson des cheveux, et donc voilà, ça c'est à vérifier. Donc voilà, bah, je pense qu'on va clore cette première partie introductive sur l'actualité du cinéma asiatique. Et en même temps, on va rester avec Sonotion, puisqu'on va parler de l'étrange festival, et donc de Sonotion, et de son dernier film, roman porno, qui s'appelle Anti-Porno.